foutage.
Quand on a commencé, il y avait deux chaînes.
Brisé.
Mais c'est pas intéressant pour ces idées-là. Elle est à 20h.
Martyrisé.
Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient.
Quelque chose qui ne devrait pas être dit.
Maintenant, il y en a des centaines.
Peut encore être dit.
Mais libéré.
Ce que je veux, c'est être libre. Ce que je veux, c'est être libre. Ce que je veux, c'est être libre. Et vivre sans contrainte.
Je suis sur une radio généraliste, donc je tiens compte des grands courants.
Il y a quelqu'un qui l'entendra, et puis ça ressortira.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien à l'écoute de Presse Libérée pour ce numéro du mois de mai. Salut Thomas.
Salut Pierre.
Et donc, on a eu envie, et ça ce sera pour la deuxième partie de l'émission, de parler de mai 68, puisque tout le monde s'y met. Bah, nous, on parlera de l'impact de mai 68 sur les médias. Ce sera pour la deuxième partie de l'émission, avec des archives sonores, pas mal d'archives de radio, et avec l'historien Yvan Gastaud de l'Université de Nice. Et en première partie, Thomas, toi, tu t'es intéressé à une toute autre thématique, à savoir les procès Bayon qui sévissent dans la presse.
Tout à fait. Alors les procès Bayon, ce sont ces procédures judiciaires qui assignent les journalistes au tribunal pour diffamation, bien souvent. Et donc, ça leur oblige à utiliser des moyens financiers et de l'énergie, en fait. Alors, nous avons contacté Yvan Duroy, de rédacteur en chef de Bastamag, et Michel Guéraud, rédacteur en chef du Ravi, car les deux journaux sont actuellement en processus de diffamation.
Alors justement, il y a une actualité assez forte là-dessus, et c'est pour ça qu'on a eu envie d'interviewer Bastamag, parce qu'il y a quand même une décision importante vis-à-vis d'une grosse boîte. Il s'agit de Bolloré. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et on va écouter juste après donc Yvan Duroy de Bastamag, et puis Michel Guéraud, le rédacteur en chef du Ravi, qui est ce mensuel régional en région PACA, nous expliquera tout sur un procès à venir les concernant.
Alors depuis 2012, Bolloré a traîné en justice Bastamag pour diffamation pour un article à propos de ses activités en Afrique, et Basta vient juste de gagner son procès. Et ils sont poursuivis pour un deuxième procès sur un autre article qui parle du même sujet.
Donc, je m'appelle Yvan Duroy, je suis cofondateur du site bastamag.net, donc c'est un site d'information en ligne sur les questions sociales et environnementales qui existe depuis une dizaine d'années. Et donc en 2012, nous avons publié un article sur la question de l'accaparement des terres. Donc c'est un phénomène qui touche principalement les continents asiatiques, africains et latino-américains. Ce sont des grandes entreprises, des États ou des fonds d'investissement qui achètent du foncier à grande échelle pour ensuite contrôler une production alimentaire ou spéculer sur ces terres. C'est une question qui se pose aux sociétés locales et notamment aux petits paysans africains, latino-américains, etc. Et donc on s'est intéressé dans cet article surtout aux grandes entreprises françaises qui participaient à ce phénomène. Et donc on évoquait notamment le cas du groupe Bolloré qui vient une holding domiciliée au Luxembourg dans lequel le groupe Bolloré a des participations importantes, gère des plantations principalement de d'EVA, enfin pour le caoutchouc, et d'huile de palme en Afrique de l'Ouest.
C'est les plantations sur lesquelles il y avait eu un reportage par Élise Lucet, c'est bien ça?
Oui, ça c'était dans le cadre d'un portrait sur Bolloré qui avait été diffusé par France 2. Le portrait évoquait les différentes affaires de Bolloré, mais il y avait notamment un passage sur une plantation de la socfine, je crois que c'était au Cameroun, où on voyait notamment les conditions de travail assez déplorables des gens qui travaillent dans les plantations, et puis le fait que, possiblement, il y avait des enfants qui étaient employés sur ces plantations. Donc nous, on évoquait ces questions-là sur la base notamment de rapports d'organisations de défense des droits humains qui ont écrit et documenté de manière assez sérieuse les violations des droits humains, la question des conditions de travail donc en Afrique de l'Ouest et en Asie, au Cambodge notamment, où la socfine et donc Bolloré possède des plantations. Et c'est cet article qui a donc été attaqué en diffamation par le groupe Bolloré.
Et donc ça fait 5 ans que cette histoire traîne, et là vous venez enfin de gagner en cassation.
Voilà, donc là, l'article a été publié en octobre 2012. En début 2013, on nous a fait savoir qu'une plainte en diffamation avait été déposée, donc on a été mis en examen. Et puis ensuite, il y a eu la première instance, le procès en première instance qu'on a gagné. Ensuite, Bolloré a fait appel, donc on a gagné l'appel aussi, et il s'est pourvu en cassation. Et la Cour de cassation donc, a rendu son jugement là, début mai 2018, et a rejeté le pourvoi du groupe Bolloré. Donc on a enfin totalement gagné, définitivement gagné sur cette procédure.
Vous avez souvent eu des procédures Bayon de ce type-là ?
Non, là, c'est la première. Alors, sachant qu'on a déjà eu des lettres ou des intimidation d'autres multinationales sur d'autres sujets, mais ça s'est jamais traduit ensuite en justice. Et sachant que là, le groupe Bolloré a déposé aussi une seconde plainte contre nous sur un article qui était un petit peu la suite de l'enquête qu'on avait réalisée sur la question de l'accaparement des terres et qui racontait que le groupe Bolloré recevait des délégations de paysans africains à son siège à la Défense à Paris pour justement, via les protestations et les critiques qui sont émises localement contre ces plantations, pour tenter de négocier avec eux. Et donc on a écrit un petit article qui relatait ça et qui a été poursuivi aussi en diffamation par Bolloré. La première audience aura lieu en octobre à la rentrée.
Alors Bolloré, c'est un spécialiste des procédures Bayon. Il a signé pas mal de journalistes au tribunal, et même quand c'est des médias qui ne sont pas des médias alternatifs, je pense là au Monde, à l'Obs et au Point, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, alors on a, avec d'autres journalistes et organisations non gouvernementales poursuivies par Bolloré, on a listé un peu l'ensemble des poursuites. Donc il y en a eu en une dizaine d'années, il y en a eu une petite trentaine. Donc on s'aperçoit que dès qu'un média, quel qu'il soit d'ailleurs, Bolloré poursuit systématiquement les articles des contrats de ses activités en Afrique, principalement, donc il s'agisse des plantations, de la Socfine, ou aussi de l'affaire de l'acquisition des ports de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest par le groupe Bolloré, et pour lequel Bolloré lui-même est mis en examen aujourd'hui. Donc dès qu'on parle de ses affaires, son business en Afrique, il attaque systématiquement.
Et alors, il en a gagné combien de ces procès Bayon ?
Il avait attaqué France Inter et Libération il y a quelques années, où il a gagné sur un des points sur lesquels il attaquait les sujets qui ont été réalisés. Ensuite, il a perdu tous ses procès. Alors, il faut savoir que dans sa technique, en fait, sur un article, par exemple, il va attaquer, comme il a fait pour nous, une dizaine de paragraphes différents, en espérant que sur un paragraphe ou une phrase attaquée, il obtiendra gain de cause, ce qui lui permettra de dire, voilà, l'ensemble de l'article était faux, était mensonger, puisqu'on a gagné. En fait, quelquefois, ils vont gagner sur un point assez anecdotique de l'affaire, mais ce qui ne veut pas dire que le reste de l'enquête ou de l'article est jugé diffamatoire par la justice.
Du coup, il joue la stratégie de l'épuisement parce qu'il, lui, a les moyens financiers et humains pour pouvoir traîner justement les journalistes au tribunal, et ça ne lui coûte pas grand-chose comparé à toute l'énergie que ça demande aux journalistes.
Il a quasiment un budget illimité au vu de sa fortune pour réaliser ses poursuites et au vu du chiffre d'affaires de son groupe. Donc même s'il perd le fait de poursuivre les journalistes, ça contribue en quelque sorte, c'est une forme de mesure de rétorsion et ça contribue à tenter de les museler, sachant que pour un média comme nous qui a un budget, parce que nous on vit sans publicité, et on est en accès libre, donc on a un budget entre 300 et 400 000 euros, donc forcément ça représente un coût, les frais d'huissier, les frais d'avocat, les frais de justice, qui pèsent un petit peu sur notre budget et qui nous empêchent de faire d'autres articles sur ce type de sujet. Et puis ça prend aussi du temps pour une petite équipe comme la nôtre de préparer ces différentes audiences et de préparer notre défense. Donc effectivement, c'est une manière de faire ce qu'on appelle des poursuites Bayon, de faire en sorte qu'on ne parle pas des affaires qui fâchent.
Dans l'article qui célébrait la victoire, vous aviez dit que ça vous a coûté plus de 13 000 euros cette procédure et qu'avec cette somme-là, vous auriez pu rédiger une dizaine d'articles de fond, d'enquête. Et donc, de fait, il a bâillonné ses enquêtes par l'énergie qui a été mise ailleurs.
Oui, tout à fait.
Il me semble que c'est aussi Bolloré qui a interdit la diffusion de plusieurs reportages, ou en tout cas qui a failli les interdire, notamment celui dont on parlait tout à l'heure avec Élise Lucet.
Il y a deux choses. Il y a les médias qui va poursuivre, qui traitent de ces affaires en Afrique et qui va poursuivre en diffamation. Donc ça a été le cas de Mediapart, de nous, de France Télévisions, aussi d'ONG qui publient des rapports sur ces activités. Et après, il y a dans les médias que Bolloré contrôle lui-même, en l'occurrence via Vivendi, le groupe Canal+, où là, en interne, un certain nombre de reportages ou de projets d'enquête vont être censurés ou écartés, parce que ce sont des enquêtes qui peuvent déranger Bolloré ou ses partenaires commerciaux. C'est notamment le cas l'année dernière d'une enquête sur le Crédit Mutuel, qui avait été censurée par Canal+, et qui ensuite a été diffusée par France 3. Donc il y a deux pratiques. Le fait que Bolloré contrôle lui-même des médias autour du groupe Canal+, donc Canal+, CNews, etc. Et puis il y a les médias qu'il ne contrôle pas, qu'il va poursuivre quasiment systématiquement dès qu'on aborde son business en Afrique.
Est-ce qu'il y a des avocats spécialistes du coup de ce genre de questions?
Oui, oui. heureusement, en France, il y a une chambre du tribunal de la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris qui est spécialisée dans le droit de la presse. Donc ça permet déjà de s'exprimer face à des juges qui connaissent parfaitement le droit de la presse et qui sont capables de juger correctement ce type d'affaires et puis qui connaissent bien toute la jurisprudence sur les questions de liberté d'expression, liberté de la presse. Et il y a bien sûr aussi des avocats qui sont davantage spécialisés sur ces sujets-là.
Quelles sont les peines possibles, du coup, si jamais vous aviez perdu ce procès?
Pour les poursuites en diffamation, quand il s'agit de presse, c'est en général des amendes. Il y a a priori la peine de prison qui, heureusement, en l'état actuel des choses, qui sont décidées, et l'obligation éventuellement de publier un démenti dans un ou plusieurs journaux à grand tirage si l'article a été jugé diffamatoire par les magistrats.
D'accord. Avec la loi secret des affaires là qui a été votée, est-ce que vous pensez que la liberté de la presse et justement ce genre d'information sensible sur les entreprises va être encore plus compromis, va être encore plus difficile à mettre en œuvre?
Oui, la loi sur le secret des affaires va, à mon avis, rendre plus difficile le fait d'enquêter sur les activités des multinationales. Bah, c'est pas comme mon avis d'ailleurs, parce que c'est celui d'un certain nombre de journalistes qui travaillent sur ce sujet ou d'organisations gouvernementales, et y compris de syndicats, parce qu'il y a toute une campagne en cours contre la directive européenne sur le secret des affaires et sa transposition en France, qui est en cours, puisque la loi a été votée à l'Assemblée nationale fin mars. Et donc cette loi, en fait, en gros, sous prétexte de protéger les grandes entreprises de l'espionnage industriel, étant cette protection, il y a une définition de cette protection suffisamment floue pour que demain, des journalistes ou des lanceurs d'alerte qui travailleraient sur un sujet lié aux activités des multinationales pourraient être poursuivis dans le cadre de cette loi sur le secret des affaires par l'entreprise en question. Donc ça peut poser à terme des problèmes de ce type, oui.
Au lieu de protéger les lanceurs d'alerte comme ça a été promis, au final, on les rend encore plus fragiles face à ces industriels qui sont tout puissants.
Demain, on peut penser que, par exemple, sur des grandes enquêtes sur l'évasion fiscale d'entreprises ou d'actionnaires, enfin, on a vu avec les LuxLeaks ou les Panama Papers, est-ce que demain, ce type d'enquête sera possible et est-ce qu'elle sera attaquée ou non dans le cadre de la loi secret des affaires? Si demain, un salarié, par exemple, dénonce certaines conditions de travail ou certaines malversations au sein de l'entreprise dans laquelle il travaille, est-ce que lui risquera pas non plus d'être attaqué dans le cadre de la loi sur le secret des affaires? C'est toutes les questions que pose ce nouveau texte et sur lesquelles, pour l'instant, il n'y a pas de protection suffisante pour à la fois les salariés en interne, les syndicalistes, les lanceurs d'alerte, les journalistes, pour qu'ils puissent faire leur travail et leurs enquêtes d'intérêt général sans risquer d'être attaqués systématiquement par les entreprises dans le cadre de cette loi.
Et est-ce que la loi qu'on nous promet à propos des fake news risque pas d'empirer encore cette situation?
Ça, je vous avoue que j'ai pas trop regardé le détail du texte sur les fake news, mais c'est à mon avis aussi un faux débat. C'est-à-dire que qui va être habilité à juger que telle information est vraie ou fausse, sachant que la différence avec les fake news, c'est que les rumeurs sont des choses qui se diffusent très rapidement, qui profitent un petit peu de l'effet des réseaux sociaux pour se diffuser massivement, de manière quasi en quelques jours. Et donc le problème, c'est comment on va distinguer ce qui relève d'une fausse information de ce qui relève d'une analyse ou d'une opinion sur un sujet, parce qu'on peut avoir une information qui énonce des faits et puis plusieurs interprétations différentes de ces faits et de ce qu'on en tire. Donc ça va être, à mon avis, très compliqué à mettre en œuvre.
Ça risque de donner plus de pouvoir à l'arbitraire de l'exécutif ou de la justice et qu'il y a un contrôle de l'information qui aura une forme assez floue, quoi, qui ne garantira pas nos droits.
C'est le risque, parce que si demain, par exemple, on publie une enquête et qui expose certaines informations, que certains estiment que ces informations sont fausses et du coup demandent la fermeture du site temporairement à cause de ces présumées fausses informations qui seraient diffusées. Et le temps que la justice ensuite s'empare de ce sujet pour dire est-ce que oui ou non ce sont des fausses informations qui ont été diffusées, ça pose question. Oui. Entre la diffusion et puis la décision de justice qui va, au vu de sa lenteur, va forcément prendre du temps, de la question de la décision arbitraire d'empêcher tel site de publier des informations ou de les diffuser.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot sur la liberté de la presse?
Mais il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on est dans une période quand même assez instable. Enfin, on le voit notamment, y compris en Europe, avec la montée de régimes autoritaires qui ont tendance à de plus en plus censurer la presse ou d'être tentés de les censurer. On voit aussi le fait que de plus en plus de médias se sont créés et puis de l'information qui se diffuse via les réseaux sociaux. Donc le fait d'avoir une presse qui travaille de manière la plus indépendante possible et la plus rigoureuse possible est à mon avis encore plus fondamental aujourd'hui. Et donc ce sont des supports à défendre et à préserver.
C'était Yvan Duroy, le rédacteur en chef de Bastamag. On leur souhaite bonne chance et on suivra la suite de leur chronique judiciaire de très près. Autre procès, mais même combat, Michel Guéraud, le rédacteur en chef du Ravi, le mensuel de PACA qui ne baisse jamais les bras et dont vous avez déjà entendu les aventures dans cette émission, est en procès face à l'Odelvar suite à un article qu'ils ont écrit sur les activités de son patron et élu départemental qui gère donc à la fois les subventions qui sont déléguées à l'Odelvar et qui récupère les revenus à travers son entreprise. Et il les a traînés en diffamation pour deux articles différents qui parlent de la même affaire. Et le premier procès a été repoussé 3 fois et aura enfin lieu le 15 mai prochain. Vous écouterez peut-être cette émission après le 15 mai. Alors on mettra toutes les informations sur la page Facebook de Presse Libérée.
Eh bien, c'est l'ODEL, l'ODELVAR, c'est l'Office départemental d'éducation et de loisirs qui s'occupe des centres de loisirs, des enfants. C'est un organe parapublic dans le Var et qui est dirigé par des élus, des élus républicains, qui nous traînent en procès pour diffamation suite à une enquête qu'on a publiée déjà, maintenant ça date de mai 2017. Ils nous réclament pas mal d'argent, ils nous réclament 32 500 euros, ce qui est vraiment beaucoup pour notre petite économie. Pour nous, c'est typiquement une procédure bâillon. Il s'agit d'entraver notre travail. Il y a des symptômes ça, de cette démarche-là. C'est-à-dire que quand on a enquêté, comme on le fait toujours sérieusement, en leur demandant de s'exprimer, en leur posant des questions pour qu'ils s'expliquent, ils n'ont pas voulu nous répondre. Donc là, les portes étaient fermées. Ensuite, quand l'article a été publié, ils n'ont pas demandé ce à quoi ils ont droit dans ces cas de figure-là, c'est-à-dire au fameux droit de réponse. Et par contre, directement, une procédure de justice. Alors la conséquence de ça, c'est que même si on est un journal satirique, un journal d'investigation qui passe par les fenêtres quand les portes sont fermées, on est prudent quand même. On a pris un avocat qui est un militant aussi, hein, donc qui ne nous saigne pas au niveau de ses honoraires, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui nous préconise, qui nous coûte et qui nous préconise la prudence. C'est-à-dire que quand une procédure est enclenchée, il faut faire attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on dit. Et comme cette procédure, elle dure, le procès a déjà été... on a déjà été convoqué 3 fois pour cette affaire. Donc chaque fois, c'est des déplacements, c'est des frais avant qu'il y ait un jugement. On pensait qu'ils allaient renoncer, ça avait été renvoyé sans nouvelle date, mais non, ils nous ont réassigné, cette fois-ci, ça va avoir lieu donc mardi, hein, à Draguignan, au tribunal de grande instance de Draguignan. Cette fois-ci, ça sera jugé sur le fond, on le pense, et puis on invite tout le monde à réagir, à ne pas laisser faire, on veut nous bâillonner, clairement, la seule façon, la meilleure façon de nous aider, comme d'habitude, c'est de s'abonner.
Et alors, vous êtes sous le coup d'une deuxième procédure en justice par les mêmes, s'il me semble.
Et voilà, et ça c'est un scoop, ça on s'en serait passé volontiers. Mais les mêmes, alors pas tout à fait, mais l'ODEL, à nouveau, le même organisme, mais pas tout à fait les mêmes personnes. Dans le premier cas, celui du procès qui arrive, c'est le directeur Marc Loriol, qui est aussi conseiller départemental LR du Var, qui est directeur de l'ODEL, qui est partie prenante de la procédure. Il y avait aussi sa chef, si j'ose dire, la présidente de l'ODEL, Josette Ponce, qui nous a assigné au départ et qui a reculé là, dans les va-et-vient juridiques. Elle est toujours mentionnée par les plaignants dans les dossiers. Nous, on mentionne, hein, on parle d'elle dans l'article, mais là, elle s'est retirée. Alors, on ne sait pas trop ce que ça peut vouloir dire. C'est la DRH, cette fois-ci, Magali Sparano, qui n'a pas apprécié le contenu d'un deuxième article qu'on a publié sur l'affaire, qui nous assigne, là les sommes sont entre guillemets plus raisonnables, enfin quoique, c'est 5500 euros si on cumule un peu toutes les demandes, mais encore une fois, on va être convoqué le 22 juin à Draguignan toujours, mais tout ça, si ça dure autant que la première affaire, ça risque de nous amener loin.
Et alors le Ravi, le journal qui ne baisse jamais les bras, c'est pas la première fois que vous êtes traîné en justice, vous aviez gagné vos précédents procès ?
Oui, alors il y a eu plusieurs procédures, je vais pas les lister, pas tant que ça finalement, ce qui veut peut-être dire alors soit qu'on est trop prudent, soit qu'on est très sérieux, et je pencherai sur cette deuxième lecture. Mais ouais, alors je peux en citer deux peut-être. Il y a eu au tout début, dans les premiers pas du journal, qui fête ses 15 ans, hein, en juin, une affaire, c'était le député-maire de Menton, un républicain, à nouveau, enfin il s'appelait pas comme ça, c'était UMP je pense à l'époque, qui nous avait assigné et on a gagné. Alors on a gagné, comprenons-nous bien, c'est-à-dire que c'était pas nous qui attaquions, donc en tout cas il a été débouté et on aimerait que ça se termine comme ça d'ailleurs avec l'Odel. Le tribunal avait acté du sérieux de notre travail journalistique et ce qui était amusant c'est que lui avait changé complètement d'attitude à partir du moment où il avait été débouté. Il n'avait pas fait appel, il aurait pu. Et au contraire, alors qu'il avait toujours refusé de nous parler, il nous avait reçus dans son bureau en nous prenant un peu sur un autre terrain, tout un autre terrain, du genre « on vous manipule, je vais vous expliquer qui je suis et ce que je fais ». Enfin voilà, donc changement d'attitude. On avait très bien vendu d'ailleurs à l'époque sur Menton parce qu'on avait été identifié sur cette affaire. Et, donc c'est à double tranchant hein, parfois pour les gens qui nous attaquent. Et puis plus récemment, le maire d'Istres, alors cette fois-ci, Bernardini, on dit qu'il est, c'est un maire très divers en fait, divers gauche, c'est en tout cas tel qu'il se revendique, enfin il est un peu partout, c'est un ancien socialiste, il a été même le numéro un du Parti Socialiste dans les Bouches-du-Rhône il y a quelques années, c'était avant Guérini. Et lui donc nous a assigné sur un autre article, et pour diffamation toujours, et là aussi on a gagné, alors tout en étant condamné sur le même article, mais pas par le maire, mais par un entrepreneur qui était mis en cause dans l'article pour une erreur secondaire, à un euro symbolique.
Alors qu'est-ce que tu penses de la liberté de la presse à l'heure où on parle fake news, où on parle secret des affaires? Est-ce que ça sent que ça commence à être vraiment compliqué pour les journalistes de faire leur travail?
C'est compliqué. Alors nous, objectivement, là, dans les affaires dont on parle, on n'est pas touché par la question du secret des affaires, puisque là, c'est plutôt la puissance publique hein, qui est en cause dans les exemples que je donne. Mais oui, il y a un vrai souci. Le souci, c'est... C'est cette chape de plomb qui pèse sur les journalistes qui ont envie de faire leur métier normalement, en fait. C'est-à-dire, normalement, un journaliste, il n'est pas là, c'est un contre-pouvoir. Hein, et il est là, en particulier sur le plan local, pour faire face à ces barons qui se croient tout permis. Il faut voir quand même les arguments qui peuvent être avancés. Moi, j'espère que je repense à nouveau à l'affaire Varoise. Ils n'ont pas aimé, par exemple, qu'on parle à propos de l'Odel, de ses pratiques de pieuvre. Donc on a... Alors on cherche, on est le ravi. Du coup, on a surenchéri. Et Babou, un excellent dessinateur, a dessiné une magnifique pieuvre. Voilà, donc on ne va pas baisser les bras. Mais si des procédures comme ça se multiplient... Et si on n'est jamais à l'abri de ces procédures-là... Ce sont des gens qui ont des moyens, par exemple l'avocat qui les défend dans l'affaire Varoise n'est autre que le bâtonnier du tribunal dans lequel on est jugé, donc un monsieur important. S'ils arrivent à trouver une faille juridique, même si nous on est assez sûr de notre dossier, de notre enquête, des pièces qu'on peut apporter... Mais s'ils arrivent à trouver une faille, ils peuvent nous donner un coup sur la tête qui pourrait être, dans notre économie très fragile, fatal.
Mm-hmm. Alors, le journalisme est toujours un sport de combat, et on espère qu'on va gagner ce combat. Alors, on lâche rien, et on baisse pas les bras. Merci beaucoup.
blaguer, tu es la 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 la. Ils veulent nous blaguer, tu es. Blaguer, tu es. Ils veulent nous blaguer, tu es. Oh, ils se réveillent, vous. Ils veulent nous blaguer, tu es. Réveillez-vous. Vigilance et résistance. Ils veulent nous blaguer, tu es. Oh, ils se réveillent, vous.
Vous êtes toujours à l'écoute de Presse Libérée pour ce numéro du mois de mai, et donc voici venir la chronique de Sébastien Boistel. Sébastien, président de Médias Citoyens PACA et journaliste au Ravi, qui dans une ambiance printanière a beaucoup de choses à nous dire sur d'autres médias libres, ou peut-être devrions-nous dire des médias vraiment libres.
Non, des médias vraiment, vraiment pas pareils. Donc on vous parle ici régulièrement de la presse et des médias pas pareils. C'est vrai que la formulation est maladroite, volontairement floue, imprécise et surtout totalement inappropriée, tant il arrive que la presse et les médias pas pareils se retrouvent à être très pareils. Très pareils entre eux, à traiter de la même manière les mêmes sujets, je dénoncerai personne. Très pareils en interne, à maltraiter ceux qui les font rire en vivre, je ne citerai toujours personne. Et très pareils aux autres lorsqu'il s'agit de faire la même chose que ceux qui le dénoncent. Et la presse et les médias pas pareils, c'est comme les yaourts de la publicité. Ce qu'ils font à l'intérieur se voit à l'extérieur, mais je n'en dirai pas plus. Pour cette chronique commémorant, célébrant, rappelant, glosant, exploitant les 50 ans de mai 68, on s'est dit qu'il fallait mettre l'imagination au pouvoir. On s'est dit aussi que ce serait vachard de se dire que mai 68 était définitivement mort en voyant un dessinateur devoir attaquer au prud'homme Charlie Hebdo pour réclamer son dû, ou le PC à la Marseillaise profiter d'un ultime plan social pour une dernière purge ciblant ces gauchistes du SNJ-CGT qui ont eu l'outrecuidance de penser qu'un autre journal était possible. Non, on a découvert l'occasion d'un reportage. La presse et des médias, vraiment, mais alors vraiment pas pareil. C'était à la fin avril, du côté d'Avignon, lors d'une journée de commémoration des 150 ans de Charles Maurras. Oui, le fondateur de l'Action française, journal qui, au passage, vient de mettre la clé sous la porte. Mais que sans fleurs s'épanouissent, camarade, ami. Si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. La presse et les médias, vraiment, mais alors vraiment pas pareil, il y en a un paquet. Et ils ont plutôt le vent en poupe. On n'ira pas jusqu'à dire qu'ils mettent en pratique l'OK 68 art de l'imagination au pouvoir, mais il y a une belle diversité et des problématiques qui ne sont pas très éloignées de la presse et des médias pas pareils. Lors de ce colloque, par exemple, on est tombé sur Le Maréchal, l'organe de l'association de défense de Philippe Pétain, qui, avec une inventivité sans cesse renouvelée, se targue d'apporter un autre point de vue sur le héros de Verdun. En attendant que les cœurs de la Joyeuse Garde aient fini de beugler, mais à la France ils font un roi, on a trompé notre ennui en feuilletant Hier, aujourd'hui, demain, la France, le journal des cadets de France. Un journal qui n'a pas été sans nous rappeler Fakir. Pas tant parce qu'il dit du mal de Macron et qu'il conclut en substance qu'à la fin, c'est eux qui vont gagner, avec en prime du matériel militant, notamment un joli poster en quatrième de couverture clamant « Trois couleurs, un drapeau, un empire ». Mais parce que, comme souvent dans ces médias désargentés, on a de la première à la dernière page, une seule et même plume. En l'occurrence, Roger Olindre, qui a fait l'Indochine, partie de l'OAS et qui, accessoirement, ancien reporter à Paris Match et au Figaro, a fondé en 72 le Front National avec Jean-Marie Le Pen. Et Roger, il écrit tout, l'édito, la nouvelle, bon on exagère, quand il faut parler de son dernier bouquin ou de son dernier CD, il délègue. Avec ça et là, des appels à soutien. Face à la pourriture morale organisée par le pouvoir, notre jeunesse est désemparée et beaucoup de garçons et de filles de France ne croient plus en rien. Il est donc nécessaire de recréer les cadets de France interdits par la stalinienne Marie-Georges Buffet. J'ai décidé de relancer ce mouvement de jeunes ainsi que son journal. Je ne peux faire cela sans argent. Alors voyez vos amis, tous vos amis, faites vous-même un effort et aidez-moi. Du financement participatif, et devinez où est domicilié le journal, rue des Entrepreneurs. Ça ne s'invente pas. À côté de ce monument, il y avait des tracts pour une web TV qui se présente comme la première chaîne alternative de France. Le premier média alternatif avec 2 à 3,5 millions de vues par mois, une télé et une radio indépendante et libre de toute influence. Un média qui donne la parole à ceux qui n'ont pas ou à ceux qui en sont privés. Une chaîne qui n'a pas recours à la publicité et ne perçoit aucune subvention d'État et dont le financement est participatif. Un système qui, je cite toujours, garantit une liberté totale de parole pour ses journalistes et ses invités, bien loin des pratiques des médias qui dépendent des manias de la presse. Non, ce n'est pas le média. C'est TV Liberté, qui a pour but de promouvoir et de défendre la culture et l'esprit français, ainsi que la civilisation européenne. Comme je vous le disais, une presse et des médias vraiment, mais alors vraiment pas pareil. Et comme le disaient des proches à propos de Minute, ces médias-là, c'est très économique, parce que pour une somme modique, ça vous permet d'avoir tout Sartre, puisque vous avez à la fois la nausée et les mains sales.
C'est à Nanterre, l'université nouvelle surgit d'un bidonville, que tout a commencé. D'abord par des revendications qui paraissaient futiles, puis par une tension croissante qui allait faire d'une crise universitaire considérée à tort comme bénigne, une grave crise politique.
C'est pour cette raison que nous déclarons aujourd'hui à la faculté de Nanterre que nous ferons tout en sorte, tant dans ce meeting qu'à la suite de ce meeting, que pendant toute la semaine prochaine, nous ferons en sorte d'obtenir le droit d'expression politique. Nous lutterons jusqu'au bout contre l'administration pour avoir le droit de nous exprimer politiquement, quand on le veut, où on le veut, dans les locaux de cette faculté.
Un nom restera attaché à l'histoire de cette crise, celui de Daniel Cohn-Bendit. Son interpellation par la police, le bouclage du quadrilatère de la Sorbonne, déclenche des manifestations d'étudiants de plus en plus massives, suivi d'accrochages de plus en plus violents avec la police.
Autre temps, autre média, autre univers à présent dans Presse Libérée. Pour la deuxième partie de l'émission, nous allons faire un tour de mai 68 à mai 2018 pour nous demander quel héritage a laissé la révolte dont on fête les 50 ans pour la liberté des médias. Alors on va commencer par un voyage en radio avant de faire un petit focus avec un historien, Yvan Gasteau, sur la question. Pour la radio, on reviendra avec beaucoup d'archives qui nous donneront à entendre une petite révolution dans ce printemps 68. Celle que l'on appelle les périphériques, parce qu'elles émettent depuis l'étranger pour contourner le monopole d'État sur la radiodiffusion, sont dès le début sur le terrain, relayant en direct manifestations et meetings. Une démarche qui ne plaît pas au pouvoir gaulliste qui tente alors de les discréditer. À ce propos, Europe 1 se verra affublé du sobriquet de Radio Barricade. Sa concurrente RTL n'en est pas moins sur le terrain et les deux radios envoient des reporters directement dans les manifestations. Ils font des commentaires souvent aux élans sportifs. D'ailleurs, plusieurs commentateurs sportifs font partie de ces reporters.
Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache, pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants.
Dans l'atmosphère en puantie par les gaz lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. Il ratisse vraiment un coup de matraque.
Attention, attention François, il y a un pavé.
Et il y a déjà une barricade qui brûle et je vois un incendie qui se déclare de l'autre côté de l'autre barricade.
Eh bien les manifestants, après être restés un quart d'heure, place d'Enfer Rochereau, les manifestants maintenant s'engouffrent sur le boulevard Raspail en criant à l'Elysée, à l'Elysée. Il est actuellement 17h45.
Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez ! Les étudiants chargent !
Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il à l'ORTF, l'Office de Radio-Télévision Française ? La voix de son maître se plie d'abord à la censure et relaie la propagande du pouvoir.
Le Premier ministre décrit la genèse des violences, leur montée, leur éclatement, c'est-à-dire tous les événements connus des jours derniers. Des événements entretenus parfois sur des antennes que le Premier ministre n'a pas nommées, mais qui ne sont certainement pas celles que vous écoutez en ce moment.
Je ne peux pas ne pas souligner le rôle, en pareil cas difficilement évitable, mais néfaste, de radios qui, sous prétexte d'information, enflammaient quand elles ne provoquaient pas. Entre la diffusion du renseignement et la complicité, entre le souci de recueillir les explications des manifestants et l'appel à la manifestation, il n'y a qu'un pas, et qui fut franchi parfois allègrement.
« quelques journalistes résistent et font valoir leur liberté. Le 14 mai, le magazine télévisé Zoom consacre un numéro à la révolte des étudiants et leur donne la parole en plateau. Pour cette programmation, ces deux producteurs sont limogés. Sur France Inter, des journalistes font savoir leur refus de la censure et leur soutien avec le mouvement. La censure, quant à elle, trouve d'autres moyens. Le 23 mai, le ministère des Postes et Télécommunications coupe les liaisons haute fréquence qui permettaient les directs. Alors, les reporters bricolent à l'ORTF comme pour les périphériques. Pour transmettre leur son par les lignes téléphoniques et faire des directs depuis les téléphones de particuliers.
À la gare de Lyon doit se trouver en ce moment, pour nous, Raymond Tortora, que nous avons déjà entendu il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a du nouveau, Raymond Tortora ?
Oui, Jean-Pierre Elkabbach, je viens d'avoir un coup de téléphone de Marc Alvarez qui se trouve, je vous l'ai dit, en tête de la manifestation qui, partant de l'esplanade de la gare de Lyon, se dirige en ce moment, qui tente de se diriger plutôt vers la Bastille. Mais Marc Alvarez m'a dit il y a 5 minutes que tous les accès de la place de la Bastille sont bouchés par d'importants services d'ordre. Il y aurait là 1500 à 2000 CRS qui sont là et qui attendent les manifestants. C'est dire que la manifestation s'embouteille, si j'ose dire, car actuellement, à l'esplanade de la gare de Lyon, il y a encore de très très nombreux manifestants qui n'ont pas bougé de quelques mètres depuis quelques instants. Il était très difficile d'avoir les mots d'ordre et les consignes données par l'UNEF et le SNASUP, car vous savez dans quelles conditions nous travaillons. Nous sommes chez des particuliers, nous sommes sur les balcons de ces particuliers qui veulent bien nous accueillir chez eux et mettre à notre disposition leur téléphone. Et il est évident que garder un téléphone dans ces moments-là, c'est quelque chose de très précieux. Descendre dans l'immense foule qui est là, je vous parlais tout à l'heure de 40-50 000 manifestants, je ne sais pas, pour demander, pour essayer de joindre un dirigeant, pour lui demander quels sont les mots d'ordre, est pratiquement impossible, ou si cela est possible, vous perdez votre poste de communication.
On manque aussi de lait, de pas mal de choses à la Sorbonne. Beaucoup d'auditeurs, je dois le dire, nous ont appelés en nous disant qu'ils étaient prêts à porter ces denrées dans la cour de la Sorbonne. Eh bien, j'espère qu'ils le feront. En tout cas, au nom des étudiants, au nom des blessés, nous les en remercions. Et puis, puisqu'on en est au remerciement, je voudrais remercier aussi tous les auditeurs de France Inter qui nous ont permis de vivre, parce que c'est vraiment grâce à eux, de vivre ces événements, d'informer finalement toute la France. Parce que vous le savez, nos lignes haute fréquence et radiotéléphone ont été coupées par le ministère des PTT, à nous et à tous les autres radios d'ailleurs. Et c'est grâce au téléphone de particuliers que nous avons pu émettre toute la nuit, vous donner les dernières nouvelles au quartier latin. Alors nous tenons absolument à remercier tous les auditeurs de France Inter pour leur gentillesse.
Enfin, trois journalistes de France Inter ont adressé à M. Jacques-Bernard Dupont, directeur général de l'ORTF, la lettre suivante. « Monsieur, je constate qu'il est décidément impossible d'exercer à l'actualité radiophonique le métier de journaliste conformément aux règles et aux principes moraux de cette profession. En conséquence, je vous demande d'accepter ma démission des fonctions que j'occupe à l'ORTF. » Les signataires de cette lettre sont Lucien Biro, Pierre Charpentier et Jean-Pierre Sy. Rappelons que les journalistes de l'actualité radiophonique, réunis en Assemblée générale le 26 mai dernier, ont pris acte de l'engagement solennel de toute la rédaction, sans exclusive, de lutter pour obtenir un statut démocratique de l'ORTF au service de la nation.
Le retour à la normale à la faveur du mois de juin gagne aussi les radios, et en particulier à l'ORTF qui connaît quelques purges.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Demain mardi sera une journée capitale pour le retour de notre pays à la normale après 3 semaines de conflits et de grèves. Nous vous présenterons en images la synthèse des différentes négociations de ce lundi de Pentecôte, dont la principale a été celle portant sur la SNCF, négociation qui n'est d'ailleurs pas encore terminée. Mais au-delà des grèves, les yeux se tournent vers les élections législatives du 23 juin. Avant de laisser la place aux images, je voudrais vous dire un mot de notre maison. La situation d'ensemble à l'ORTF fera l'objet d'une déclaration au nom du gouvernement de M. Yves Guéna, ministre de l'Information. Cette déclaration sera diffusée après télésoir. Un certain nombre de mesures personnelles viennent d'autre part d'intervenir à l'ORTF. M. Pierre de Boisdeffre a quitté ses fonctions à la direction de la radiodiffusion. M. Émile Biasini a remis sa démission de directeur de la télévision. Quant à M. Édouard Sablier, il quitte la direction de l'actualité télévisée. Les journalistes et techniciens qui, sous sa direction, ont maintenu le journal télévisé pendant la période difficile que vient de traverser le pays tiennent à assurer Édouard Sablier de leur sympathie et de leur confiance. Je vous invite maintenant à regarder Télésoir, en commençant par l'actualité politique.
Et pour en comprendre davantage sur l'impact de mai 68 sur les médias, Thomas a joint par téléphone Yvan Gasteau, historien à l'université de Nice.
La volonté est une volonté de centralisation. Le pouvoir gaulliste a été effectivement très largement critiqué sur ce sujet, puisqu'il y a pas mal d'affiches qui montrent que l'ORTF, en fait, est une instance d'information, mais aussi de surveillance, en quelque sorte, et de formatage. Des slogans, mai 68, l'ORTF vous surveille, l'ORTF vous régente, etc. Donc, la vision qu'on a de la radio-télévision française, c'est une vision centralisatrice, et même un peu totalitaire, hein, pratiquement, qui fait que cette institution est une institution très largement décriée. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'aspect technique, hein. C'est donc l'idée que en 68, il y a les moyens techniques pour une diversification sont assez limités. Bon, il y a bien dans la radio la possibilité d'avoir des postes périphériques, mais globalement, en 68, il y a deux chaînes de télévision. La deuxième chaîne a été créée très récemment, en 67. Et donc, voilà, on est dans une information qui, par rapport à aujourd'hui, est extrêmement uniforme et extrêmement peu diversifiée. Et donc, dans la révolte de mai 68, l'argument des médias est un argument de poids et important pour montrer qu'il faut évoluer dans ce cadre-là. Parce que, par exemple, les frontaliers là, nous disaient que lorsqu'ils étaient amenés à s'informer en mai 68, ils ne regardaient pas l'ORTF, mais ils regardaient les télévisions allemandes pour s'informer, parce que l'information ne passait pas.
Car dans l'immense transformation politique, économique, sociale que la France accomplit en notre temps,
das Revoltierende Frankreich wollte kein neues Plebiszit, wollte nicht durch diese ultimative Fragestellung an den Bonapartismus erinnert werden.
Est-ce que vous avez maintenant d'idée de combien il y avait de radios d'État et combien il y avait de radios périphériques qu'on se rende compte un peu?
Alors en mai 68, il y a dans le paysage audiovisuel, donc officiel, donc deux chaînes de télévision en France avec des stations régionales, hein, mais qui sont finalement assez limitées. Hein. On a qu'ensuite, il y a quelques chaînes de radio nationales aussi, hein, France Inter, Paris Inter, et puis les postes proches de la frontière comme Radio Monte Carlo, comme Télé Luxembourg, Europe 1 et Sud Radio. Et dans ce contexte-là, le paysage global de la majorité des Français se limite à ça en termes d'audiovisuel.
Alors quelles sont du coup les réformes structurelles, les victoires qui ont été obtenues directement après mai 68 à propos du fonctionnement des médias?
Alors la victoire, elle est effectivement, comme vous dites, culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, dans les acquis de mai 68, même si les acquis techniques et réels sur le plan des réglementations des lois et des mesures d'avancée sociale sont finalement assez limitées. Hein, mais il y a effectivement cette conséquence culturelle qui va faire que mai 68 a instauré une image de liberté, hein, qui va beaucoup toucher le monde médiatique. Alors ça prendra du temps, c'est pas immédiat. La première des conséquences se traduit dans la presse écrite, où on voit émerger des médias alternatifs dès 68, et puis très vite après, en 69-70, apparaître des titres soit d'information, soit des magazines culturels qui sont dans le souffle de mai 68.
Être différent, c'était le Libé de 73. Ses créateurs, des anards, des libertaires, maoïstes, anciens de 68, sous la houlette d'intellectuels et d'un père spirituel, leur dieu, Jean-Paul Sartre.
Le journal attaque toutes les institutions qui modèlent la pensée des gens, qui cherchent à contrôler au service des intérêts leurs idées, leurs impulsions, leurs instincts.
Et les médias audiovisuels vont suivre quelques années plus tard, c'est-à-dire contrecarrer, proposer autre chose que l'information de l'État, proposer d'autres récits journalistiques, proposer d'autres formes, d'autres formats de rapport à l'écrit, à l'audiovisuel, au reportage, etc. Et ça, c'est vraiment, me semble-t-il, dans le mouvement de mai 68, qui prône donc effectivement une forme de liberté, une forme d'insoumission, de rapport à l'autorité différente, de décentralisation. Enfin, toutes les valeurs se retrouvent dans la manière dont on va proposer à partir des années 70, plutôt au milieu des années 70 dans le monde audiovisuel, des possibilités de diversification, même si elles resteront quand même assez timides à ce moment-là et assez militantes. Il y a aussi ça qui est intéressant, c'est que en mai 68, il y a des expériences audiovisuelles qui se développent. Alors je n'ai pas le détail, mais on voit des manières de filmer, des types de reportages, un rapport à la pellicule, un rapport au documentaire qui propose de donner, et encore aujourd'hui c'est des archives, des images un peu différentes des simples actualités. Et donc, on a un rapport à l'image et au son en 68 qui est un rapport nouveau. Et je crois que ce qui est créé là va provoquer ce qui va se passer par la suite, en fait.
Les manifestants ont pénétré, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de la bourse. Ils ont forcé tout d'abord les grilles, ils ont monté les marches, ensuite ils ont enfoncé les portes. Ils ont déposé à l'intérieur de la bourse des cajots qui traînaient par là, les détritus aussi qui étaient dans le coin, justement, rue du 4 septembre, rue Vivienne, et ils les ont mis à l'intérieur.
Et donc c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est de mettre le lien entre la créativité du mouvement de mai 68 sur le plan artistique, pictural. Hein. On voit les, par exemple l'école des Beaux-Arts transformée en atelier populaire pour les questions d'image, de graphie, de type de tract, et la créativité que représenteront par la suite les nouveaux médias issus de 68.
Et alors le tournant au niveau structurel, c'est avec l'élection de Mitterrand.
Effectivement, il y a une histoire donc du militantisme de ce côté-là, et puis une histoire plus... Oui, structurel au sens de la législation, de la manière dont ces médias vont progressivement être acceptés et autorisés dans l'espace public et dans le contexte juridique français. Donc il y a deux éléments parallèles. C'est effectivement le militantisme minoritaire qui va amener à ouvrir la situation. Et ça prendra beaucoup de temps parce que, bien sûr, on se rend compte que la France, peut-être plus que d'autres pays, hein, a toujours été soupçonneuse, hein, effectivement, de l'impact que pourraient avoir des radios, des formes d'émissions radiophoniques, et peut-être ensuite des formes d'émissions télévisuelles qui pourraient venir subvertir les esprits. Hein. Bon, on a déjà des éléments pendant la Seconde Guerre mondiale qui mettent ça en évidence, hein, ou pendant la guerre d'Algérie également, hein, soupçonneux du type de médias qui pourraient venir faire des interférences. Et ça se poursuit, en fait, dans les années 70, puisque les années 70 sont les années du militantisme des radios qui va bientôt être celui qu'on appellera Radio Libre. Hein. Mai 68 se termine donc au mois de juin, pendant l'été 68, mais l'onde de choc se produit encore à tous les niveaux jusqu'en 81.
Toutes les radios libres attendent beaucoup du changement de président. François Mitterrand lui-même est encore inculpé pour émission pirate. La fin du monopole des ondes commencerait par éviter aux animateurs de ces radios libres les incessants déménagements des installations nécessaires pour déjouer les plans de la police.
Pendant 4 ans, on a eu la police, on a eu le brouillage, convoqué, procès, et là, il semblerait qu'on va être au moins toléré, et j'espère après autorisé.
En tout cas, hier soir encore, Radio Verte a été brouillée après seulement 30 minutes d'émission.
Par exemple, l'apparition des radios libres de manière plus importante et massive, c'est plutôt la fin des années 70, hein, 77, 78, où on voit apparaître effectivement la possibilité d'utiliser techniquement les ondes de la radio à des fins militantes. Hein. On peut penser à Radio Lorraine Cœur d'Acier, voilà, qui a été créée dans ces années-là, dans un but bien précis, se donner une voix au monde ouvrier menacé par les restructurations, par les licenciements.
Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h, première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain.
Voilà un élément qui met en évidence la volonté de pouvoir proposer quelque chose qui soit un contre-pouvoir, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment la conséquence de mai 68, le souffle de mai 68 qui se traduit... dans différentes régions, avec cette idée de dire voilà, on va produire une parole politique, une parole sociale, une parole qui veut vraiment se libérer des chaînes, des médias contrôlés par l'État et financés par l'État, avec très corsetés. Donc l'idée d'avoir voilà une parole alternative, des engagements alternatifs, dont la radio et un peu la télévision seraient les outils, les conducteurs. Voilà. Mais en même temps... c'est successivement, mais aussi en même temps, dès les années 70, on voit apparaître aussi une dimension commerciale à tout ça, c'est-à-dire l'idée de pouvoir écouter de la musique librement, parfois regarder des films à la télévision lorsqu'il s'agit de télévision pirate, et de mettre en évidence déjà une dimension commerciale à travers la possibilité de contourner les règles très strictes de ce qui est diffusé à la radio et à la télévision officielle, et de pouvoir voilà bénéficier de médias qui proposeraient des services et des choses qui n'étaient pas dans les habitudes de l'époque.
1, 2, 1, 2, 3, Paris, Bordeaux, Le Mans.
Tu t'entends?
Oui, je m'entends, mais j'entends les autres aussi.
Bah, c'est normal.
D'accord.
Messieurs, vous demande une petite minute d'attention.
Vous écoutez Radio Verte.
Sensationnel.
Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Radio Verte sur 99 MHz comme tous les soirs, il est 22h30, vous nous entendez donc, Radio Verte qui est une station ni interdite ni autorisée.
Ce soir un programme spécial rock avec Café Mozart.
Café Mozart est un de leurs meilleurs morceaux, Massacre au temps.
Roulez jeunesse.
Techniquement pour faire une radio.
Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel, il faut un petit mélangeur. Une ou deux platines, quelques micros, des casques et évidemment un émetteur. Un émetteur italien, comme on voit sur la carte, il fait 350 watts, c'est-à-dire qu'il couvre largement tout Paris, sans problème, surtout que là ce soir on est bien placé, hein, et donc on couvre la région parisienne sans aucun problème.
Pourquoi est-ce que maintenant on n'a plus ces médias aussi proches du peuple? Quelle est l'évolution de la situation selon vous entre 81 du coup et 2018.
Ce qu'on peut noter, c'est que aujourd'hui les possibilités existent, mais les envies ont disparu. C'est un peu le contraire du passé. Avant, les envies existaient, les moyens étaient faibles. Aujourd'hui, les moyens sont très forts et les volontés sont un peu faibles. Les deux conséquences de mai 68, c'est à la fois cette période de production d'une intense activité clandestine. Donc en parlant de clandestinité, il y a toute cette histoire des conditions de production des émissions dans des appartements, sur les bateaux, la radio Caroline par exemple.
From a point at sea to the circles of your mind, a new force is at work for planetary transformation. New radio for a new earth on 963 kHz medium wave. Europe's voice of loving awareness is Radio Caroline.
Good morning, oh Caroline.
Il y a plein d'histoires extrêmement intéressantes à montrer, des pionniers de ces radios libres qui prennent des risques juridiques. Alors bien sûr, ça c'est une période qui a été donc concurrencée d'abord, puis supplantée par ce que ça a donné d'une certaine manière, c'est que à partir des années 80, cette dimension pionnière avec du contenu, avec le double impact d'une évolution de la société qui va s'éloigner des dimensions idéologiques en fait, hein, et même des dimensions sociales, et le deuxième impact qui est banalisation des radios libres à travers la bande FM, hein, d'une certaine manière, va faire perdre cette originalité, peut-être cette qualité qui va faire que petit à petit les choses vont s'uniformiser d'une certaine façon, et finalement ces radios seront supplantées par un chapelet de radios commerciales, toutes les plus uniformes les unes que les autres.
Total respect.
C'est des jeunes, ils s'amusent, hein.
Zéro limite.
Ah oh bah ça, c'est des voyous, hein.
Radio libre.
Ils appellent ça des petits c'est tout, hein. Des petits c'est le cas de le dire.
Tous les soirs des 21h, défoulez sur Skyrock.
Il y a bien quelques exceptions, mais d'une certaine manière, on pourrait voir que ce serait la deuxième conséquence de mai 68. Quand on parle d'un mai 68 qui, politiquement, a donné le libéralisme, on peut considérer que, sur le plan des radios, par exemple, mai 68 a donné d'abord les radios libres, et puis ensuite des radios libres qui sont devenues des radios totalement affectivées, qui font que désormais on est passé de la parole absolue au néant de la parole, hein, puisque sur 9 stations de la Banane FM sur 10, il n'y a pas de parole, il y a simplement un enchaînement de publicité et de musique.
Voilà, bah, le jingle est parti, c'est bon, vous avez changé sur Maroon 5. Ça vient d'où ça? Qui a envoyé
Qu'est-ce
ça
Qu'est-ce que c'est?
Mais qui s'est passé? Tout le monde en train de se regarder. Attends,
moi j'ai pas de main. Donc
je suis toujours très ouvert pour faire de la pub aux autres radios parce qu'ils en ont besoin, mais prévenez-moi, il vient d'où ce jingle? C'est eux qui me les envoient. Est-ce qu'on peut prévenir Diffoul qu'il est en train d'envoyer en même temps sur notre radio des trucs
pirate, je crois.
On est réglé sur le. Non mais sérieux, c'est pas moi qui l'ai envoyé.
Non plus. Pas moi non plus. Alors moi je suis une machine en face de moi, mais je ne crois pas y avoir touché.
Ah si, c'est toi. Bah, se prépare. Elle a un truc avec tous les jingles. Ouais. Voilà, bah écoute. Demain, et pour être équitable vis-à-vis du CSA, on mettra France Bleu La Rochelle.
Désolée.
En plus, c'est ma région. Allez, 8h17, c'est Virgin Radio.
C'est une sorte de renversement qui mérite qu'on y réfléchisse.
Vous êtes confiant pour l'avenir de la presse en France?
Je pense que l'avenir des médias et de la presse est un peu au diapason de notre avenir à nous. Et aujourd'hui, soyons confiants sur la possibilité que nous avons de pouvoir nous informer de différentes manières. Donc on peut saluer cette capacité qu'ont nos temps modernes à conserver les médias pour français. On avait prôné la mort de la radio. La radio est sans doute aujourd'hui un média extrêmement florissant et qui peut renaître sous de différentes formes. Et donc moi, je suis assez confiant sur la capacité des médias à se renouveler et à proposer toujours de nouvelles formes sans forcément disparaître. Alors, il y a bien quelques médias qui disparaissent, mais globalement, voilà, aujourd'hui, on peut se réjouir d'une conséquence de mai 68, c'est justement d'avoir ouvert la porte à la diversité de l'information, après à chacun d'en puiser les fruits en fonction de ses désirs et de ses intérêts. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que la diversité, c'est la grande qualité, mais c'est aussi un flot qu'il faut gérer, quoi. Et ce flot, pour le gérer, il faut avoir du temps pour le gérer. Il faut donc être un peu armé pour pouvoir affronter cet ensemble de diversité qui est une grande richesse, mais qu'il faut aussi parfois un peu maîtriser.
Et bien que ce soit sur Radio Zinzine, Radio Galère, Radio Alpine-Meyer, Radio Béton, La Clé des Ondes, Fréquence Paris Pluriel, Radio MNE, Campus Grenoble, Nebia Campus Corté ou encore Radio Dragon, vous étiez à l'écoute de Presse Libérée pour ce numéro du mois de mai. Voilà, autant de radios que je viens de citer et qui pour beaucoup d'entre elles sont dans cet esprit toujours de mai 68. On leur souhaite bonne route pour bien animer les ondes libres tant qu'elles restent encore debout, puisqu'on parle d'être debout. Et bien à l'instant, et on va se quitter avec ça pour cette émission, c'est Paris Mai de Nougaro, repris par l'orchestre Debout qui était présent sur les Nuits Debout à Paris en 2016. On arrive au terme de cette émission, on se retrouvera le mois prochain du côté de Mulhouse. Donc on aura l'occasion d'en discuter des initiatives de Médias à Mulhouse et notamment de l'éducation aux médias. On vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos de notre émission sur la page Facebook, donc Presse Libérée. Et vous nous retrouvez également sur presselibérée.org pour écouter toutes les émissions. Et on se retrouve le mois prochain, même heure, même lieu, même radio.
On lâche rien.
Salut.
Salut.